Un roi 10, verset 1er, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. » Et on va aller au verset 13. « Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. » Amen. Amen. Un bel exemple d'une bonne attitude. Et Jésus, si vous vous souvenez, quand on avait parlé sur Jonas, Jésus, il a repris aussi l'exemple de la reine du Sud. La reine du Sud, c'est la reine de Saba. Et il est dit qu'au jour du jugement, elle se lèvera et elle dira, « Moi, je suis venu des extrémités de la terre pour voir Salomon. Et vous, vous avez plus que Salomon, vous avez Jésus-Christ. » Ça nous invite, à nous qui connaissons la parole, et nous qui avons lu cette histoire, à regarder précisément quelle a été l'attitude de cette reine face à Salomon, comment elle a réagi, et c'est ce qu'on va voir ensemble cet après-midi, parce qu'il y a des bonnes dispositions qui sont dans son cœur, qui vont être des exemples pour nous. La première chose qui a fait réagir cette reine, c'est la renommée de Salomon. Vous êtes d'accord ? C'est le premier verset. La reine de Séba a pris Séba ou Saba, ça on dit les deux, hein. Donc vous étonnez pas si j'emploie l'un ou l'autre. La reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon. Et parce qu'elle avait appris cette renommée, la suite nous dit qu'elle a voulu venir. Elle a voulu s'approcher, elle a voulu connaître en personne. Est-ce que c'est une bonne réaction ? Est-ce que dans ce monde, on a du moins entendu parler de Jésus ? Est-ce que ce monde y connaît Jésus ? Une des preuves, c'est que le calendrier est basé sur la date de naissance, à peu près, bien sûr, on n'est pas certain de la date, mais en tout cas, c'est notre zéro. L'année de la naissance de Jésus, c'est notre zéro dans notre calendrier. On dit avant, après Jésus-Christ. Donc il y a une certaine idée de Jésus. Il y en a peut-être qui ont entendu parler de Jésus, je pensais à ça. Il y a quelques années, il y a ce livre qui est sorti, du Da Vinci Code. Vous avez peut-être entendu parler, qu'ils en ont fait même un film. Et il y en a peut-être qui ont entendu parler de Jésus au travers de ce livre, tout en ne sachant pas que tout ce qui était dit là-dedans était que des rumeurs, que des faits totalement invétérés, des choses qui viennent de mythologie, qui ne sont pas du tout appuyées sur les évangiles. Et peut-être qu'il y en a qui croient que Jésus, c'est ce qui est raconté dans ce livre. Peut-être que d'autres, c'est la religion qui leur a parlé de Jésus. Peut-être que d'autres, c'est des personnes, des philosophes de notre époque, il y a des philosophes encore aujourd'hui qui sont là et qui parlent de Dieu, de la foi, de Jésus. Peut-être c'est une autre religion qui a parlé de Jésus, qui a expliqué ce qu'était Jésus à quelqu'un. Mais quand on voit l'attitude de cette femme, c'est sûrement des serviteurs ou des personnes qui ont rencontré Salomon, qui lui ont parlé de lui, qui ont dit qu'il avait une grande sagesse. Et la Bible nous dit... On peut le lire, c'est juste quelques chapitres avant, chapitre 4, verset 29, « Dieu donna à Salomon de la sagesse une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Est-ce que vous êtes amusé à compter les grains de sable qui sont au bord de la mer? Voilà, bon, je crois qu'on a tous eu la même chose. Hein. Au bout du 1300e, on en a marre. Quoi. Non, on ne va pas si loin. Et en tout cas, la Bible compare la sagesse de Salomon, la connaissance de toutes les choses qu'il avait, au sable de la mer. Et quand cette femme, elle a entendu parler, quelqu'un lui a raconté les prouesses intellectuelles de Salomon, ça a titillé sa curiosité. Mais elle aurait pu rester comme ça. Elle aurait pu en rester là. Elle aurait pu avoir une idée, une renommée de Salomon. Elle aurait pu connaître certaines choses, des bonnes choses ou des mauvaises choses, parce que dans la renommée, il y a toutes sortes de choses. Il se trouve que là, c'est des bonnes choses, mais dans notre époque actuelle, la renommée de Jésus, ce n'est pas forcément des bonnes choses qui circulent partout. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette femme, face à cette renommée, elle a voulu en savoir plus. J'ai regardé à peu près à combien se situait le royaume de Saba de Jérusalem, de l'endroit où était Salomon. Et en gros, il y a 2000 kilomètres. 2000 kilomètres, il faut savoir qu'à l'époque, le moyen de locomotion, c'était pas le TGV. Hein. Pour faire 2000 kilomètres, c'était le chameau. Et le chameau, il roule à 40 kilomètres heure. Donc j'ai fait un petit calcul vite fait. Il fallait 2 mois de voyage, en gros. 2 mois pour aller jusqu'à Jérusalem. Est-ce qu'il faut être motivé quand même pour faire ce voyage? Est-ce qu'elle s'est dit, bon, je vais peut-être commencer le voyage, mais je vais m'arrêter en chemin si jamais je suis trop fatigué. Et en plus, ce n'était pas des voyages bien tranquilles. Il y avait les brigands, il y avait les déserts, il y avait toutes sortes de choses, les fleuves à traverser. Il fallait vraiment être déterminé. Et c'est ça qui est notable dans cette reine de Saba, c'est qu'elle était déterminée. Elle a entendu parler, mais elle voulait voir de ses yeux. Elle voulait entendre de ses oreilles. Et combien ça nous donne l'exemple à nous, qui avons peut-être entendu parler de Jésus, nous sommes invités à le voir de nos yeux, à l'entendre de nos oreilles, à faire notre propre expérience, à vérifier par nous-mêmes ces choses-là, à vérifier par nous-mêmes que Jésus est sage, que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Et comment on le fait? Ben, c'est simplement en le priant, en faisant une expérience avec lui, en le priant pour un sujet bien précis, si on est malade, en demandant la guérison. En tout cas, faire notre propre expérience. Merci Seigneur pour les personnes qui nous ont rendu un bon témoignage. Je pense que tous ici, il y a au moins une personne qui nous a rendu un témoignage de Jésus à un moment donné. Et la plupart, ça a été un bon témoignage qu'on nous a fait. Merci Seigneur pour ces personnes. Mais Dieu nous invite à nous faire notre propre expérience, à faire notre propre, à nous-mêmes, à nous approprier cette chose-là. Et elle a été déterminée au point de ne pas regarder à ce qui l'éloignait. Malgré les kilomètres qui la séparaient, malgré son éloignement par rapport à Salomon, elle a été déterminée à faire le voyage. Et encore aujourd'hui, il y a tellement de choses qui éloignent l'homme de Dieu ou l'homme de Jésus. Et ces choses sont les raisonnements humains, sont le péché, ces choses sont les pensées négatives. Il y a la religion même, des fois, éloigne l'homme de Dieu. Parce que souvent, on croit qu'on mérite quelque chose, comme il a été dit. Mais regardez ce que dit Éphésiens 2, verset 13, je le lis pour vous. Maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par quoi? Par son sacrifice. Nous sommes rapprochés par son sacrifice. Dieu, déjà, de son côté, nous a rapprochés par son sacrifice. Mais maintenant, c'est à nous de nous faire notre propre expérience. C'est à nous de mettre notre foi dans ce sacrifice. C'est à nous de nous approcher également, comme l'a fait cette reine de Saba. Deuxième chose, deuxième attitude qu'elle a eue, face à ce qu'a fait Salomon, Salomon lui a répondu. Quelle a été son attitude? La première chose qu'on a vue, déjà, c'est qu'elle est venue dans un but bien précis, elle est venue dans le but d'éprouver Salomon par des énigmes. Elle avait des questions, et ce n'était pas forcément des questions vitales pour elle, c'était simplement éprouver Salomon par des énigmes. J'ai presque voulu vous en donner quelques-unes, parce que vous savez, il y a des livres de tradition juive et toutes sortes de livres différents qui nous parlent de ces choses, mais on n'est pas sûr et certain que c'est elle qui l'a prononcé. Donc j'ai pas voulu rentrer dans ce jeu-là. Par contre, j'ai voulu réfléchir à quelle profondeur avait la sagesse de Salomon, et ça, on peut en être sûr. On a un exemple face à ces deux prostituées qui viennent voir Salomon. Vous vous souvenez de cette histoire? Et là, on a un exemple magnifique. Et vous savez que c'est juste après le moment où il a fait la prière au Seigneur. Dieu lui a posé une question: que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Demande-le, je vais te le donner. Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous, face à cette question? Qu'est-ce qu'on aurait demandé au Seigneur? Salomon, il a eu cette sagesse de dire: Seigneur, tu vois, je suis bien jeune, il y a un peuple nombreux, donne-moi l'intelligence pour bien le mener, pour bien faire la justice, pour bien avoir du discernement entre le bien et le mal. Et tout de suite après, il y a cette histoire qui arrive. Les deux femmes prostituées qui viennent voir Salomon, les deux qui ont accouché à 3 jours d'intervalle, et il y en a une qui, pendant la nuit, elle dormait avec son enfant, et elle s'est couchée dessus, et l'enfant est mort. Et quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené à l'autre femme qui avait eu le jeune enfant également. Elle a échangé les enfants. Elle a pris l'enfant vivant, elle lui a mis l'enfant mort et elle a accusé que c'était elle. Et quand la maman, vous savez que la maman, même si l'enfant il est tout petit, elle reconnaît son enfant. Hein? Les mamans, vous êtes d'accord? Même s'il est tout petit, il a un jour, on reconnaît, on sait que c'est notre enfant. Et quand elle a vu que c'était pas son enfant, en plus qu'il était mort, eh bien, elle a commencé à vouloir régler l'histoire, et puis ils ont vu que ça menait à rien de parler comme ça, alors ils sont allés voir Salomon. Et là, Salomon a eu cette parole. L'une dit que c'est son enfant, l'autre dit que c'est son enfant. Comment faire? Comment trouver la solution? Eh bien, amener une épée, on va le couper en deux, comme ça chacun, on va être juste, chacun aura une moitié de l'enfant. Et là, la maman, et comme toutes les mamans, quand son enfant est en danger, elle a dit: bon, je préfère que c'est elle qui l'ait, parce que je préfère qu'il ne lui arrive pas de mal, mais que même si elle n'est plus dans ma présence, je préfère que c'est elle qui l'ait, mais au moins elle sera en bonne santé, cet enfant. Et l'autre, elle a dit: bon, peu importe, on aura au moins la moitié, voilà, c'est juste, c'est quelque chose de bon. On voit bien, et on voit bien surtout qui était la maman, mais on voit surtout l'intelligence et la sagesse de Salomon dans cette histoire. Et quand on lit les évangiles, on a la même impression de sagesse surnaturelle, quelque chose qui vient inspiré par Dieu. Parce que la sagesse de Salomon, on a bien lu que c'était Dieu qui lui avait donné une très haute intelligence. Mais quand on lit les évangiles, on voit que Jésus, il a cette sagesse et cette intelligence venant de Dieu. J'ai pris quelques versets qu'on connaît bien, mais qui sont tellement profonds quand on y réfléchit. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Et il est dit que dans ce verset-là, c'est la loi et les prophètes. Si déjà on mettait en application que ce verset, on accomplirait tout ce que la Bible nous demande. Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose de magnifique quand même? Et c'est une parole, il y a quelques mots, mais ça résume tout ce que Dieu veut pour l'humanité. Un autre verset: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quelle sagesse aussi! Et on arrive à comprendre, ça arrive à nous montrer quel est l'amour du Seigneur pour ses enfants. Beaucoup de premiers seront les derniers, beaucoup de derniers seront les premiers. Toutes ces paroles qui sont tellement simples mais tellement, tellement vraies. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Combien ça simplifie ce que beaucoup de religions disent. Les religions qui disent de faire tant de choses, tant de prières, tant de pénitences, toutes sortes de donner tant d'argent et vous obtiendrez le salut. Alors que là c'est heureux ceux qui ont le cœur pur, tout simplement. Voilà la sagesse de notre Jésus-Christ. Comment elle réagit, cette reine, face à cette sagesse? Elle vint trouver Salomon, parler avec lui de tout ce qu'il avait dans le cœur. Au début, elle est venue pour lui poser des questions intellectuelles, pour éprouver son intelligence. Mais en voyant qu'il répondait à toutes ces questions, et en voyant surtout l'amour de la vérité qu'il y avait en lui, elle a commencé à ouvrir son cœur véritablement. Et ça nous montre, nous, le chemin cet après-midi. On a peut-être des questions intellectuelles ou philosophiques: qu'est-ce que je fais sur la terre, pourquoi je suis là, qui suis-je, où vais-je, etc. Mais quand on connaît le Seigneur véritablement, quand on s'approche de lui du moins, quand on fait cet effort, quand on est déterminé à s'approcher de lui, on peut lui ouvrir notre cœur et lui demander vraiment les choses qui sont importantes pour nous. Et il va nous répondre. La Bible nous dit que Salomon a répondu à toutes ces questions. Salomon a répondu à toutes ces questions et il n'y en a pas une seule à laquelle il n'a pas pu répondre. Et j'aimerais vous dire cet après-midi que Jésus peut répondre à toutes nos questions. Toutes nos questions, Jésus peut y répondre, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Si on a une question par rapport à notre santé, Jésus est capable de nous guérir. Si on a une question par rapport à un problème dans notre couple, Jésus est capable de rétablir ce qui est cassé. Jésus est capable de répondre à toutes les questions de notre cœur, parce qu'il est le Tout-Puissant. Troisième chose qui a fait que la reine de Saba a réagi, a eu une bonne attitude, on va le lire au verset 4 et au verset 5, le relire. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. » Amen. Elle a commencé, elle est venue et maintenant elle voit. Et c'est tellement simple. Mais l'évangile, c'est la même chose. Il faut venir, avoir ce désir de venir, de se séparer de tout ce qui nous éloigne. Et puis, il faut voir, il faut goûter. On se souvient de ce verset, ou ce chant qu'on chante aussi. « Oh, viens et vois que Dieu est bon. » Et bien, c'est ça. Elle est venue et elle a vu. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Il y a toutes sortes de choses. Je vais essayer de passer très vite parce que c'est tellement riche. Mais elle a vu d'abord la maison. Salomon, il avait un magnifique palais. Il avait même bâti le temple de l'Éternel. Et quand on regarde comment il a fait, c'était plaqué d'or de partout. Même sa vaisselle était en or. C'était quelque chose de magnifique. Elle voit tout cela. Donc ça nous parle que sûrement dans son palais, il était moins beau, moins joli, moins en or, moins toutes ces choses. Puisqu'elle est, elle est époustouflée par ce qui arrive. Et parce qu'elle voit. Et elle voit cette maison. Mais nous, aujourd'hui, nous voyons la maison de Dieu, et la maison de Dieu, c'est l'Église. Nous voyons l'Église. Et il y a ce passage qui me revenait alors que je réfléchissais à cette chose. Quand Jésus dit à Pierre, « Tu es heureux, Pierre, parce que ce ne sont pas la chair, le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et je réfléchissais à cette chose, que c'est vrai que c'est dans l'Église. Dieu a permis que Jésus bâtisse l'Église, c'est son désir, et il continue de la bâtir, mais il y a cette idée que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Il y a cette idée qu'il y a la protection de Dieu sur son Église. Il y a cette idée qu'il y a la sécurité de Dieu sur son Église. Il y a cette idée qu'il y a que dans son Église, toutes ces personnes qui ont été sauvées, guéries, protégées, sont cimentées par le Saint-Esprit. Puisque dans une maison, les briques sont cimentées entre elles. Le Saint-Esprit est là, il cimente. Et quand nous réalisons, quand nous voyons comment l'Église est, comment nous voyons des personnes de toute origine, de toute nationalité, de toute langue, qui adorent d'un seul cœur le Seigneur, quand nous voyons toutes ces choses, on est émerveillé, comme la reine de Saba l'a été. Deuxième chose qu'elle voit, les mets à sa table. Salomon mangeait sûrement les plats les meilleurs de son époque. Il avait sûrement les meilleurs cuistots de son époque. Et nous avons la meilleure nourriture, puisque nous avons la nourriture de l'âme. Jésus nous a donné la nourriture de l'âme. Il nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Est-ce que nous allons vouloir y goûter? Ça, c'est à nous, à chacun d'y répondre. Troisième chose, la demeure de ses serviteurs. Même le plus petit des serviteurs de Salomon, il habitait dans des demeures magnifiques. C'est ce qu'on en déduit. Et elle était même épatée par les demeures des serviteurs. Non seulement la maison du roi, mais les demeures des serviteurs. Et Jésus, il nous a fait des promesses quant à la demeure qu'il va nous donner. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous préparer une place. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de magnifique? Est-ce que ce n'est pas pour nous une espérance incroyable? Est-ce que ce n'est pas pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, peut-être le défi de le connaître, pour avoir cette espérance? On a une place dans le ciel qui est réservée. On a une demeure dans le ciel déjà réservée. Parce qu'on connaît le Seigneur, parce qu'on a foi en lui, tout simplement. Elle a vu les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient. La fonction que Dieu a prévue pour l'homme, vous savez c'est laquelle? Il les a créés à la louange de sa gloire. Nous sommes créés pour louer la gloire de Dieu. Ça, c'est le but de la vie. Voilà, peut-être on se posait la question, justement. C'était une énigme pour nous. Pourquoi suis-je sur la terre? La réponse, elle est là. Dieu nous a créés à la louange de sa gloire. Et il nous a donné, pour nous qui avons cru en lui et en son sacrifice, un vêtement blanc qui a pu devenir blanc parce que parce que nous l'avons lavé dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, ce sang qui purifie l'homme du péché. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cromoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ma question cet après-midi, est-ce que tu veux être lavé? Est-ce que tu veux être pardonné de tes péchés? Est-ce que tu veux revenir à ce but que Dieu a fait pour toi, c'est-à-dire de pouvoir le louer, louer sa gloire? Et je finis avec ces deux choses. Les échansons, vous savez ce qu'étaient les chansons? Celui qui servait le vin. Et le vin, dans la Bible, nous parle de la joie, tout simplement. Et en fait, j'aimerais simplement, j'ai pris une image tellement simple, hein, mais dire que nous sommes tous des échansons dans la maison de Dieu. Dans ce sens que nous avons tous, nous qui avons été sauvés, la joie du salut. Et cette joie-là, vous savez, Jésus, il en parle. Jésus, il a dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est pas n'importe quelle joie. C'est pas la joie parce qu'on a gagné au loto, c'est la joie d'être sauvé. C'est une joie parfaite. C'est une joie parfaite. Dieu nous offre une joie parfaite et nous qui avons reçu cette joie, il nous invite à la communiquer autour de nous, à la distribuer un peu. C'est pour que de cette manière qu'on ait un peu les échansons. On essaye de procurer la joie. Comme quand on a la paix intérieure, on procure la paix. Quand on a la joie du salut, quand on a la joie de Dieu, on essaye de la procurer autour de nous. Et est-ce qu'on veut cet après-midi connaître la joie parfaite? Et regardez ce qu'il est dit. Ce qu'elle a vu en dernier, elle a vu les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Cela nous parle à nous du sacrifice de Jésus. Jésus qui s'est offert lui-même. Et tout ce qu'on a vu juste avant, tout ce qu'elle a vu, ne prend son sens que par ce sacrifice, ne prend son sens que par le don de Jésus à notre place. En lui, nous avons toutes les choses dont on a parlé, le pardon, l'adoption, la nourriture, l'espérance, la joie. Toutes ces choses, elles sont en Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ma question, elle est simple. Veux-tu croire en Jésus et en son sacrifice pour toi cet après-midi? La reine de Saba, elle fut si impressionnée par tout cela qu'elle en eut le souffle coupé. Quand on regarde le mot qu'on a lu, nous, c'est hors d'elle-même, mais quand on regarde précisément, c'est qu'elle a le souffle coupé. Elle n'a plus de souffle. Elle est là, elle est muette. Et est tellement émerveillée par tout ce qui se passe, par les paroles qu'il lui a dites, mais aussi par tout ce qu'elle voit. Et si on regarde honnêtement au Seigneur Jésus, si on regarde honnêtement à son amour, si on regarde honnêtement à toutes les paroles de sagesse qu'il nous les a laissées dans son évangile et dans toute la Bible en général, si on regarde à sa puissance, si on regarde à toutes les personnes qu'il a sauvées, si on regarde comment il prend soin de son Église encore aujourd'hui, si on regarde comment il a pris soin de l'Église tout au long des siècles et comment il continue de le faire, si on regarde ça honnêtement, alors on va avoir la même réaction que la reine de Saba. On va être époustouflé, ébahi devant tant d'amour, devant tant de grâce. Et on est invité à répondre à cet amour. On est invité à répondre. Tout simplement, je vais prendre cette histoire qui va nous parler. Comment répondre à cet amour? Sur les berges d'une rivière, il y avait un chasseur qui il a ramassé des cailloux. Et il s'amusait, parce qu'il était chasseur sûrement, à viser les oiseaux pour essayer de les tuer. Et donc il essaye, il a réussi, mais les cailloux ils tombent dans la rivière, ils sont emportés au loin. Et puis il s'en va, et il lui restait quand même un caillou avec lequel il jouait dans sa main, et il rentre en ville comme ça. Et il s'arrête près du bazar, ça se passe en Inde, près du bazar, le marché local si vous voulez. Et alors qu'il est en train de jouer avec le caillou dans sa main, il y a un joaillier qui est là, qui le remarque et qui s'approche un peu de lui, et puis il se rend compte que le caillou avec lequel il joue, c'est un diamant. Et il lui dit, mais là, c'est un diamant qui vaut des centaines de milliers de roupies. Et le gars, il est totalement anéanti, et il dit, il se lamente, malheur à moi, j'ignorais le prix, et j'ai employé ces diamants pour tuer des oiseaux. Emportés par le courant, ils sont à jamais perdus, je n'en ai gardé qu'un seul. Si je les avais tous gardés, je serais millionnaire. Et il y a ce parallèle qui est fait, qui est intéressant. Chaque jour est comme un diamant précieux. Et bien que beaucoup aient été dilapidés à la poursuite des plaisirs et des choses de la terre, et qu'ils soient tombés dans les profondeurs du passé, il faut prendre conscience de la valeur de chaque jour, de la valeur du temps que Dieu nous a donné. Il faut prendre conscience de cela, et il faut l'utiliser le mieux possible, afin, comme Jésus nous le promet, d'acquérir des richesses éternelles. Là où la rouille et la teigne n'arrivent pas, ne rongent pas, avoir ces richesses-là. Et c'est justement ce qu'a fait la reine de Saba. Face aux richesses de Salomon, face à tout ce qu'elle a vu, la splendeur, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a offert à Dieu son or, son parfum, ses pierres précieuses. Je passe les détails. Elle s'est offert elle-même, elle a offert ses journées, elle s'est consacrée. Ça nous parle à nous d'offrir notre vie à Jésus-Christ, ça nous parle à nous de répondre à toutes ces choses. Pas seulement d'être impressionné, pas seulement d'être époustouflé par tout ce qu'on voit, mais de répondre, d'offrir aussi, de participer, de donner notre journée, de donner notre temps, de donner notre personne, de faire passer Dieu avant ce qui est cher dans notre cœur. Ça nous parle de toutes ces choses-là. Et on regarde le dernier verset, le verset 13. « Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi. » Puis elle s'en retourna. Jésus-Christ, il agit de même. Quand on lui donne notre vie, quand on lui donne notre cœur, il nous donne infiniment plus que ce que l'on demande. Et il y a ce verset qui est là, qui nous dit « Dieu est riche ». Il est riche pour ceux qui l'invoquent. Cet après-midi, nous avons le choix. Face à ses paroles, face à la sagesse de Dieu, face à toutes ces choses, son amour, nous avons le choix d'invoquer le Seigneur. Nous avons le choix de lui demander, de le prier, ou nous avons le choix de ne rien faire. Le Seigneur nous invite. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Alors c'est ce qu'on veut faire cet après-midi, tout simplement. On veut simplement l'invoquer, et moi je vous invite à chacun à le faire. Et peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas été époustouflé, le souffle coupé devant les choses que Dieu a préparées, les choses que Dieu nous a données, sa grâce, son amour, mais aussi les choses qu'il a préparées pour nous. Peut-être qu'on a besoin de revenir dans sa présence et de dire « Seigneur, tu vois que j'ai perdu cette passion pour toi, j'ai perdu cet amour, je n'arrive plus, je suis indifférent dans ta présence ». Je suis indifférent devant tant de choses. Mais le Seigneur, il est capable de remettre quelque chose dans notre cœur. Il est capable d'agir à nouveau, de travailler. On n'a simplement qu'à lui demander, parce qu'il est riche, pour ceux qui l'invoquent. Amen.